libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un salon de discussion web, donc utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur chat.libre-a-toi.org ou sur le site de la radio et cliquez sur chat. Nous sommes mardi 2 octobre 2018, il est 15h30, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être un podcast dans le futur. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition, la cinquième de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April, et j'ai mon collègue Étienne Gonu qui est évidemment avec moi. Bonjour Étienne.
Bonjour Fred.
Et je présenterai après nos autres invités pour l'émission du jour. Donc le site web de l'April, c'est april.org, A-P-R-I-L.org, et vous y retrouverez une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Et je vous souhaite, nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors on va passer au programme du jour. Nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Laurence Compara, qui est adjointe accès à l'information et libération des données publiques, utilisation et diffusion des logiciels libres, administration générale à la ville de Grenoble, et qui est également présidente de l'association Open Data France. Donc bonjour Laurence.
Bonjour.
Nous avons également en studio donc Xavier Berne, journaliste au célèbre site d'actualité et d'enquête Next Impact, qui traite à la fois d'informatique, mais aussi de l'actualité politique et juridique liée à l'informatique. Donc bonjour Xavier.
Bonjour.
Nous avons enfin Tanguy Morlier, alors membre du collectif Regard Citoyen, dont le but est de proposer un accès simplifié au fonctionnement de nos institutions démocratiques à partir des informations publiques. Et Tanguy est également un ancien président de l'April et toujours membre de l'April. Bonjour Tanguy.
Bonjour.
Ensuite, nous aurons par téléphone Béatrice Jean-Jean, qui est chargée de communication donc à l'ADULACT, donc Association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités territoriales. Elle nous parlera du label Territoire numérique libre. Ce sera aux alentours de 16h15-16h30. Et ensuite, après ça, mon collègue Étienne Gonu fera un point sur la directive droit d'auteur. L'actualité suite au vote au Parlement européen qui a eu lieu le 12 septembre dernier.
Tout à fait.
Mais tout de suite, place au premier sujet, collectivités et données publiques ouvertes, et ce, à quelques jours de l'entrée en vigueur de nouvelles obligations concernant les données publiques pour les administrations et les collectivités. Alors je vais faire une courte introduction, et évidemment après je vais passer la parole aux experts et aux expertes que nous avons invités. Donc l'open data pour données ouvertes est une démarche qui vise à rendre les données numériques accessibles et utilisables par tous et toutes. Un cadre juridique définit les informations qui peuvent être rendues publiques et celles qui ne le peuvent pas. Une donnée ouverte peut être produite par une collectivité, une administration ou même une entreprise. Elle est diffusée selon une méthodologie et une licence ouverte garantissant son libre accès et sa réutilisation par tout le monde, sans restrictions techniques, juridiques ou financières. Pour préparer cette émission, j'ai lu un petit peu le manuel de l'Open Data. Donc la référence sera sur le site de l'April. Et ce manuel commence ainsi. Savez-vous quelle proportion exacte de vos impôts est dépensée pour l'éclairage extérieur ou pour la recherche sur le cancer? Connaissez-vous le chemin le plus court, le plus sûr et le plus pittoresque pour rentrer chez vous à vélo? Et savez-vous ce que contient l'air que vous allez respirer sur ce chemin? Où pouvez-vous trouver les meilleures opportunités d'emploi dans votre région ou le nombre le plus important d'arbres fruitiers par personne? À quel moment est-il possible d'influencer des décisions sur des sujets qui vous intéressent et à qui s'adresser? Les nouvelles technologies rendent possible la mise en place de services répondant à ces questions. La plupart des données nécessaires pour répondre à ces questions sont générées par des entités publiques. Cependant, ces données nécessaires ne sont pas souvent disponibles dans un format simple à utiliser. La démarche Open Data vise à libérer le potentiel de ces informations, de sources officielles ou non, afin de permettre le développement de nouveaux services, d'améliorer la vie des citoyens et citoyennes, et de faire en sorte que la société fonctionne mieux. La notion de données ouvertes, et plus spécifiquement de données publiques ouvertes, existe depuis plusieurs années déjà. L'open data a commencé à gagner en visibilité en 2009 avec les initiatives de plusieurs gouvernements, États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Nouvelle-Zélande, pour ouvrir leurs propres données publiques. Et comme le précise le site Regard Citoyen, la France entre progressivement dans la danse, notamment grâce à des initiatives de citoyens et citoyennes et de localités. Nous n'allons pas entrer dans le détail de tous les points, et notamment les aspects peut-être juridiques et techniques. Nous allons principalement parler de l'intérêt de la mise à disposition de données publiques ouvertes, de la démarche de collectivité et de personnes, du droit à l'open data et des possibles difficultés de mise en œuvre pour les citoyennes, chercheurs, journalistes. Et pour cela, je vais passer la parole à nos invités, que je remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Et en premier lieu, je vais passer la parole à Xavier Bern, qui est journaliste au site d'enquête et d'actualité Next Impact, qui a produit un certain nombre d'analyses et d'articles récemment, notamment sur les données publiques et le droit d'accès aux documents administratifs. Donc, est-ce que tu peux nous faire une petite introduction sur ce droit d'accès aux documents administratifs et aux données publiques ?
Oui, bien sûr. Donc effectivement, ce mouvement de l'open data, il prend sa source dans ce qu'on appelle le droit d'accès aux documents administratifs. Alors c'est un petit peu pompeux peut-être comme nom, mais c'est quelque chose qui est en fait ancien, puisque la loi dite CADA, donc sur l'accès aux documents administratifs, date de 1978, donc elle a fêté ses 40 ans cette année. En fait, ce droit d'accès aux documents administratifs, c'est quelque chose qui est très concret. C'est-à-dire que c'est le droit pour le citoyen de connaître les informations publiques parce que détenues ou produites par des administrations. Concrètement, en tant que citoyen, vous avez donc le droit d'aller demander, par exemple, à votre maire ses éventuelles notes de frais. Vous pouvez aller demander à Bercy, au ministère des Finances, le code source de son logiciel qui lui permet de calculer, par exemple, les impôts sur le revenu ou sur la taxe d'habitation. Vous avez aussi le droit d'aller demander à l'Élysée certains éléments du dossier d'Alexandre Benalla ou aussi le menu qui a été servi le 14 juillet 2017, je crois, quand Donald Trump a déjeuné à l'Élysée. C'est un document administratif qui est communicable aux citoyens qui en fait la demande. Donc voilà, j'ai pris quelques exemples un petit peu parlants pour que tout le monde ait une idée de ce que c'est. Mais c'est un droit qui est en fait très vaste, qui concerne des rapports, des délibérations, des instructions, ça peut être aussi des statistiques, et là on fait le lien avec les données publiques, ça peut aussi être des correspondances, et puis dans d'autres sphères, ça peut être aussi le dossier médical, par exemple, si face à un hôpital, on peut demander d'avoir accès à son dossier médical, même si là ce sera uniquement pour la personne qui est concernée par le dossier médical en question. Voilà, bien entendu, il y a des exceptions qui visent à protéger par exemple les données personnelles, le secret industriel et commercial, des choses de type secret défense. Ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est que pour faire valoir ce droit, c'est extrêmement simple. C'est aussi gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin forcément de faire un recommandé auprès de l'administration auprès de laquelle vous faites une demande. Il suffit d'une simple demande écrite à votre mairie, à l'école dans laquelle sont scolarisés vos enfants. Voilà, là où ça peut se corser, c'est quand l'administration en face fait un petit peu la sourde oreille ou refuse de vous transmettre le fameux document en question. Mais ça, peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission.
Tout à fait, nous en reparlerons. Donc en fait, ce que tu expliques, c'est clairement ce droit d'accès aux documents administratifs est un droit très ancien. En fait, c'est pas nouveau, même si effectivement le mouvement données publiques est relativement récent, entre guillemets, sous la terminologie open data, et que c'est un droit qui est activable par toute personne qui peut être intéressée. Donc tu as cité un certain nombre d'exemples. Je vais passer la parole à Tanguy Morier, donc du collectif Regard Citoyen, que peut-être tu peux faire apporter quelques précisions, quelques exemples concrets sur les données publiques et sur l'importance effectivement pour les personnes d'avoir accès à ces données publiques.
Oui, absolument. Effectivement, ce droit existe depuis 1978, alors que lorsqu'on parle d'open data, on a l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement récent. Et malgré le fait que ça existe depuis 1978, c'est toujours une surprise pour les citoyens de découvrir que tout document qui est produit par l'administration lui est communicable. N'importe quelle production, à condition qu'elle ne viole pas les secrets dont a parlé Xavier, notamment le secret logique de la vie privée, ce document est accessible. Donc on peut connaître plein de choses des administrations dès 1978. Et il se trouve qu'en 2005, il y a eu une rénovation de cette loi qui vise à l'actualiser avec l'usage du numérique et de l'informatique. Puisque en 1978, on est dans une démocratie du papier où pour qu'un acte soit reconnu légal, il faut avoir la signature de la personne en charge, le directeur de service, le maire ou l'élu. Mais il se trouve que cette démocratie du papier, elle a un petit peu évolué avec l'avènement de l'informatique et notamment de l'Internet. De plus en plus, les gens s'échangent des documents numériques et donc la loi s'est activée en 2005, s'est mise à jour pour permettre non seulement la communication du papier, mais également la communication des documents numériques. Donc, un simple email à une administration peut vous permettre d'obtenir des documents numériques et notamment des tableurs, ce qui peut permettre de découvrir plus en détail le fonctionnement d'une collectivité territoriale. Pour quelqu'un qui s'intéresse par exemple aux finances d'une collectivité territoriale, il a deux choix. Aller consulter en mairie ou sous la forme d'un PDF un rapport de plusieurs centaines de pages avec des très beaux camemberts qui permettent de connaître l'usage des deniers publics, ou demander le tableur de l'ensemble des dépenses de la commune pour pouvoir connaître tout le détail et la finesse de l'exécution des budgets des différentes communes. Donc c'est ce que permet cette rénovation de la loi de 1978 en 2005, et ce qui a permis de pouvoir lancer le mouvement de l'open data, c'est-à-dire que des citoyens qui, découvrant des données numériques, sous la forme de tableurs notamment, vont penser ou vont avoir l'idée de réutilisation qui soit utile pour leur vie ou utile pour leur connaissance de la vie publique. C'est le cas, par exemple, dans l'association Regards Citoyens que je représente, où on s'est passionné pour la vie parlementaire et grâce à l'extraction de données issues du site de l'Assemblée nationale, on a pu faire un site qui s'appelle nosdéputés.fr, qui permet de savoir ce que font les parlementaires à l'Assemblée nationale. Et on a également fait un site qui s'appelle nosfinanceslocales.fr, qui représente sous la forme graphique des données comptables des différentes collectivités. Et donc, y a beaucoup de militants qui vont utiliser soit le droit de 1978. Je pense à un grenoblois qui s'appelle Raymond Avrier, qui a découvert quelques scandales dans les années 90 liés à l'usage des deniers publics à Grenoble. Et un peu plus récemment, il avait demandé les marchés publics des sondages de l'Élysée, ce qui lui a permis de découvrir ce scandale qu'on appelle aujourd'hui les scandales des sondages de l'Élysée, où on s'est aperçu qu'il y avait de la surfacturation sur ces sondages. Donc parfois, et c'est d'ailleurs assez souvent le cas lorsqu'on s'intéresse à ces problématiques-là, un certain nombre de scandales de la vie publique sont découverts grâce à cette loi qui donne énormément de pouvoir aux citoyens.
Alors merci Tanguy, en plus tu nous fais les enchaînements en parlant de Grenoble, mais vu juste avant de passer la parole à Laurence Compara pour montrer que nous sommes vraiment en direct et nous sommes en interaction avec les personnes qui nous écoutent, Marie-Odile sur le salon web de la radio nous fait remarquer qu'il ne faut pas employer le mot camembert, mais il faut plutôt parler de graphique en secteur, car sinon les Italiens diront des parmesans. Et il faut savoir que Marie-Odile habite en Italie, donc voilà.
Merci Marie-Odile, parce qu'effectivement j'ai cet abus de langage.
Voilà, donc je fais remonter effectivement cette information. Et donc évidemment, on va passer maintenant la parole à Laurence Compara, donc qui est en direct de Grenoble. Donc Laurence Compara, vous êtes donc adjoint au maire de la ville de Grenoble, notamment en charge de la libération des données publiques. Alors il serait intéressant évidemment d'avoir le point de vue de la collectivité, parce que là on a entendu le point de vue du journaliste qui recherche de l'information, mais qui est aussi évidemment un citoyen. Le point de vue du collectif Regards Citoyens. Donc quel est le point de vue donc de la collectivité par rapport à cette démarche d'open data, donc à la fois par rapport aux obligations légales, mais aussi tout simplement dans la dynamique de mettre à disposition des données publiques ouvertes à chacun et chacune.
C'est extrêmement intéressant sur le principe, même si ce n'est pas forcément simple à mettre en œuvre. Ça a été rappelé en introduction, il y a une nouveauté maintenant réglementaire en France, qui est l'obligation pour les villes de plus de 3500 habitants de rendre public l'ensemble des données dont elles disposent sous forme numérique. Donc inutile de dire que c'est assez énorme comme travail et que ça va demander un petit peu de temps pour que tout le monde se mette en ordre de marche. Mais ce qu'il faut noter, c'est que par rapport à la loi CADA dont il a été question, c'est qu'on change complètement la perspective. La logique de la loi CADA, c'est moi, individu, j'ai le droit de demander à l'administration et celle-ci a l'obligation de me répondre. Et elle me répond à moi individuellement. Maintenant, moi, administration, j'ai l'obligation de mettre à disposition, sans attendre qu'on me le demande, et à tout le monde, les informations dont je dispose. Donc c'est un changement de perspective qui est extrêmement intéressant, mais qui est de l'ordre du choc culturel pour nos institutions. Il a été dit que même dans la logique loi CADA, ce n'était pas forcément toujours facile. renverser complètement cette relation à la société extérieure, hein, citoyen, citoyenne, journaliste, chercheur, etc., etc. C'est pas anodin. Là où c'est intéressant, c'est que du coup, c'est aussi un outil au service de la transformation de nos collectivités. Au-delà de l'intérêt dont il a été question sur la transparence de la vie publique, sur le fait que les données qu'on va rendre publiques, elles peuvent servir aussi à développer des services sur nos territoires, il y a aussi cette idée que aujourd'hui, on est sollicité, on nous demande des choses. Ça demande du temps de travail à nos services, à nos agentes, à nos agents. À partir du moment où c'est librement disponible et librement réutilisable, ce temps de travail dans nos institutions, on peut le consacrer à autre chose. Donc il y a une phase de montée en puissance sur cette ouverture des données publiques, mais c'est à terme une meilleure qualité de service public pour tout le monde et une meilleure utilisation, entre guillemets, de notre force de travail, voilà, des compétences de nos agentes et nos agents qui peuvent se concentrer sur la qualité du service rendu avec un dispositif qui automatise autant que faire se peut le fait que les données qu'ils produisent dans le cadre de leur travail sont immédiatement et librement disponibles. Donc un flux de données en fait automatisé qui est un plus pour tout le monde.
Et donc c'est la démarche qui est mise en œuvre, je suppose, à Grenoble depuis donc 2014, si je me souviens bien.
Voilà, tout à fait. Donc nous avons souhaité politiquement en 2014 rentrer dans ce régime de l'open data par défaut avant même que ça soit une obligation légale. Que ça arrive là dans les jours qui viennent, qu'on rentre formellement, réglementairement dans ce régime de l'open data par défaut, ce qu'il faut comprendre plus comme un point de départ que comme un point d'arrivée. Je l'ai dit, c'est un gros travail pour nos institutions. Mais voilà, effectivement, on a eu une double démarche à Grenoble. D'une part, ce régime de l'open data par défaut, et d'autre part, une démarche mutualisée entre la ville de Grenoble, la métropole grenobloise et son syndicat mixte des transports en commun. Avec cette idée que, vu du territoire, vu des utilisateurs, des utilisatrices, que ce soit la ville, que ce soit la métro, que ce soit une autorité de transport, que ce soit une autre commune, que ce soit l'État, que ce soit la région, etc., qui produisent la donnée, finalement, je m'en fiche un petit peu, ce qui m'intéresse, c'est de la voir. Et si, non seulement, OK, elle est disponible, mais je ne sais pas vraiment où, il faut que je fouille un peu de partout, il faut que je sache que les données de la météo, c'est l'État, que les données des entrées au musée, c'est la ville, mais que la maison de la culture, c'est la métropole, ça devient quand même très compliqué. Et donc, cette idée d'avoir une démarche de territoire avec un point d'entrée unique sur lequel l'ensemble des données du territoire pourrait être disponible. Alors ça, c'est la philosophie. Et là, ben, on monte progressivement en puissance en récupérant des données que l'État collecte de son côté qui concernent notre territoire, en élargissant la démarche à d'autres communes du territoire, etc., etc. Et la philosophie est vraiment celle d'avoir une démarche centrée vers les gens qui ont besoin de cette donnée-là. En n'oubliant pas que nos propres administrations peuvent faire partie des réutilisateurs des données. Donc, quand je disais que c'est un outil au service de la transformation des administrations, c'est aussi ça. Aujourd'hui, il y a énormément de données qui passent d'administration en administration. Il y a énormément de données qui sont saisies 3, 4, 5 fois au sein de nos administrations. Le fait de l'avoir disponible librement, ça nous sert à nous aussi.
Tout à fait. D'accord. Vous avez parlé du changement à venir, en tout cas de la date du 7 octobre 2018. Je vais peut-être repasser la parole donc à Xavier Bern pour qu'il explique un petit peu le contexte du 7 octobre 2018 qui fait suite donc à la loi République numérique d'octobre, du 7 octobre 2016. Donc Xavier, est-ce que tu peux expliquer un petit peu effectivement cette notion d'open data par défaut qu'a évoqué Laurence Compara ?
Absolument. Donc en fait, par rapport au droit CADA sur l'accès aux documents administratifs, historiquement, le citoyen fait une demande en face, l'administration répond donc à la demande en lui fournissant le document ou les données sollicitées. Là, avec la loi numérique qui a été votée il y a 2 ans, et donc il y aura ces 2 ans dimanche 7 octobre, l'administration a des obligations de mettre directement à la disposition des citoyens sur Internet certains documents administratifs. Donc c'est une obligation qui est progressivement entrée en vigueur, et là, le 7 octobre, c'est donc la dernière pierre un petit peu de l'édifice qui sera construite. Et donc là, les administrations, soit pour les collectivités, donc c'est à partir de 3500 habitants, et pour toutes les autres administrations, il faut qu'il y ait au moins 50 agents ou salariés. Toutes ces administrations-là devront obligatoirement mettre en ligne leur base de données. Donc c'est une notion qui est peut-être un peu imprécise. Je pense qu'on sera amené à en rediscuter dans les mois à venir sur le périmètre de qu'est-ce qui est vraiment une base de données, parce que je pense que des bases de données, les administrations en possèdent énormément. Et donc il y a les bases de données, et la deuxième chose qui devra être mise en ligne, ce sont les données présentant un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Là aussi c'est pareil, on ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir derrière très concrètement comme type de données. Ce qui est peut-être à craindre, c'est que finalement c'est les administrations elles-mêmes qui vont définir ce que c'est, et du coup derrière un petit peu le citoyen va avoir du mal à rétorquer, à dire moi j'aurais préféré ça, à mon avis, à mon sens, ce serait plutôt une donnée à intérêt économique ou environnemental. Et il y a une dernière petite chose aussi qui devrait être mise en ligne, ce sont les règles en fait qui composent les algorithmes qui servent à prendre des décisions individuelles. Par exemple, la taxe d'habitation, là on commence à la recevoir, elle est prise à l'aide d'un algorithme. Théoriquement, à partir de dimanche, l'administration fiscale devrait mettre en ligne un document qui explique quelles sont les principales règles de fonctionnement de cet algorithme qui sert à calculer la taxe d'habitation.
Tu dis normalement.
Parce les que algorithmes, en l'occurrence.
Oui, les algorithmes.
Ça dépend aussi de décisions locales, puisqu'on est sur la fiscalité locale dans cet exemple.
Oui, c'est vrai.
Donc les algorithmes, effectivement.
C'est... Avec une Tanguy carte qui est, en l'occurrence pour les finances locales, la carte qui définit la qualité d'un bâtiment, puisque les taxes sont basées sur, cet impôt est basé sur la définition et l'âge du bâtiment dans lequel on habite. Il faut savoir que cette carte n'est pas accessible aux citoyens. Bercy, pour l'instant, refuse de la rendre publique.
La valeur locative.
La valeur locative, voilà, ouais, okay. Excuse-moi, des bâtiments, et que sans doute, effectivement, grâce à ces obligations, on va pouvoir faire avancer des thèmes qui, pour l'instant, sont assez obscurs en matière de données publiques.
On sait quand même qu'elles ne sont pas du tout à jour. Des années 70, ces bases locatives,
et qui sont mis
avec le quotidien actuel.
Voilà.
Donc, ça peut être intéressant, effectivement, de le rendre un peu public et d'aller creuser un peu plus, parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à faire évoluer.
Et d'ailleurs, c'est ce qui est très intéressant quand on discute avec des administrations, c'est que d'un point de vue du citoyen, c'est totalement anormal que cette information ne soit pas accessible. Et les administrations, sachant qu'il y a beaucoup de problèmes à l'intérieur, disent « Ah ben non, je ne peux pas la rendre publique parce qu'on va découvrir qu'il y a des problèmes ». Or, cette carte, tout le monde est d'accord qu'il y a des problèmes dessus. Et que justement, si on commence à la rendre publique et à montrer les détails de la vie administrative, je pense que les citoyens seront plus compréhensifs sur des éventuelles erreurs ou des incompréhensions que si on reste dans de l'obscurantisme à ne pas avoir du tout accès à l'information publique. Parce que cette carte est mise à jour localement, donc il se trouve que pour un certain nombre de citoyens français, cette carte correspond à une réalité territoriale, même s'il est vrai que pour la majorité des citoyens, elle est totalement pas du tout à jour.
Alors,
et puis, je voulais rebondir effectivement là-dessus, et je crois que le regard citoyen nous l'a bien rappelé tout à l'heure. Il y a un moment, de toute façon, vouloir cacher la donnée comme on cache la poussière sous le tapis, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, les citoyennes et les citoyens se donnent les moyens d'aller la récupérer, de la consolider, de la rendre publique. Tout le travail qui a été fait sur nosdéputés.fr, c'est typiquement ça. L'Assemblée nationale ne voulait pas fournir les détails des votes, pas de problème, on le reconstitue. Il y a un moment, il y a de la force de frappe aussi. S'il y a de l'envie en face sur un territoire, il y a aussi de la force de frappe. Et il y a un moment, ça ne sert à rien. La politique de l'autruche, elle ne tient plus. Au-delà du fait qu'elle n'est pas acceptable sur le principe, elle n'est même plus efficace. Donc il y a un moment, on arrête de mettre de l'énergie et essayer de cacher les choses. On les rend publiques et on en fait un véritable outil au service du pilotage des politiques publiques.
Et c'est sûr que c'est sans doute ce que l'Open Data va Dans son second temps, en fait, on vit un petit peu le second temps de l'open data. On a eu des communes qui se sont prévalues d'être un peu pionnières, comme Rennes et sa métropole, mais qui ont en fait plutôt utilisé l'open data comme un gage de modernité sur le plan de la communication. sans vraiment changer les usages. Donc les responsables de la communication de Rennes refusaient de rendre publiques des données à fort valeur politique, par exemple, parce que eux, ils voulaient simplement des trucs qui brillent. On rentre sans doute dans un deuxième temps maintenant, et notamment avec l'entrée en vigueur de l'open data par défaut, où j'ai entendu dire que ça maintenant s'appelait open data par principe. Visiblement, ce serait plus apprécié des administrations, ce nouveau terme. Dans une ère de la contribution où les citoyens et l'administration vont pouvoir ensemble gérer un bien commun, un service public. Je pense au projet OpenStreetMap que nos auditeurs connaissent peut-être.
Est-ce que tu peux présenter OpenStreetMap?
Ouais,
pour ceux qui ne connaissent pas.
Je peux faire ça, absolument. OpenStreetMap, c'est un super projet, c'est le Wikipédia de la cartographie. Il se trouve qu'il y a des gens qui sont passionnés par leur territoire et qui dessinent des cartes pour expliquer là où ils vivent. Et les initiateurs du projet OpenStreetMap se sont dit pourquoi pas faire une base de données mondiale de l'ensemble des cartes que chacun peut dessiner chez soi. Et donc, il y a un logiciel qui est accessible à tout le monde sur le site openstreetmap.org. On n'a même pas besoin d'installer quelque chose depuis l'interface web. On est capable de cartographier la rue à côté de chez soi, les commerces à côté de chez soi, les feux rouges, les passages piétons. Et une activité qui était dans l'imaginaire collectif réservée à ce service public national.
Des cartographes, des topographes.
Voilà. L'hygiène.
L'hygiène, voilà.
Et que lorsqu'on connaît un petit peu le fonctionnement des collectivités territoriales, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des cartographes dans chacune des collectivités qui dupliquent l'hygiène. Des citoyens se sont organisés, à défaut d'avoir accès librement réutilisable aux données de l'hygiène, ils ont décidé de cartographier eux-mêmes leur territoire. Alors l'hygiène progresse un petit peu, il s'aperçoit que il y a des citoyens experts, il y a également des agents publics de collectivités territoriales qui contribuent à OpenStreetMap et collectivement voient émerger sur ce site une carte mondiale librement réutilisable. C'est-à-dire que c'est une carte qui n'est pas là pour faire de l'argent avec de la publicité de Google. Lorsqu'on contribue, on contribue à un bien commun plutôt qu'à une capitalisation dans la Silicon Valley.
Et donc, en fait, ce que tu expliques, en fait, c'est qu'on est au début, finalement, enfin au début, parce qu'OpenStreetMap, ça date depuis quelques années quand même, mais au démarrage, finalement, d'une société de la contribution où les personnes, les citoyens et citoyennes, ne sont pas simplement des usagers d'un service public ou autre, mais peuvent contribuer. Et finalement, ce qui est faisable par des grandes entreprises peut être fait par un réseau de citoyens et citoyennes, et que c'est encore plus efficace et que surtout, c'est pérenne. Et ça correspond aux besoins des gens, finalement.
Voilà, des citoyens eux-mêmes qui s'intéressent à leur territoire, mais aussi des administrations. Alors, c'est sans doute, et Laurence va sans doute pouvoir nous en parler, la difficulté dans une administration, c'est que lorsqu'on a affaire seulement à des usagers, la relation avec les usagers est un peu explosive. C'est-à-dire, quand on voit un citoyen qui arrive dans son bureau, on se dit « Oula, c'est parce qu'il y a un problème, parce qu'autrement, le citoyen ne viendrait pas me voir ». Et donc, il y a un système de défiance qui est en place dans un certain nombre d'administrations et toute la difficulté de faire migrer de l'usager au contributeur et donc de voir comme bienveillant, avec un regard bienveillant, les citoyens qui viennent dans le bureau pour éventuellement pointer une petite erreur qu'on peut corriger collectivement, soit parce qu'ils s'intéressent tout simplement au travail des agents publics.
Alors, merci encore Tanguy pour cette nouvel enchaînement. Effectivement, on va passer la parole à Laurence Compara pour qu'elle nous parle un petit peu notamment de l'association Open Data France. Et ensuite, nous ferons une petite courte pause musicale pour permettre de souffler. Donc, Laurence Compara, effectivement, vous êtes présidente de l'association Open Data France. Donc, qu'est-ce que c'est que cette association et que fait-elle par rapport effectivement à cette problématique, enfin ces enjeux de données publiques et de collectivités?
Donc Open Data France, c'est une association qui accompagne, regroupe, représente les collectivités locales qui se lancent dans l'open data et qui, du coup, participe à son niveau à favoriser cette émergence de l'ouverture des données publiques. Parmi les projets phares qu'on a pu conduire, notamment dans le cadre de la loi pour une république numérique, donc il y avait cette nouvelle obligation qui est apparue dans la loi de l'open data par principe, effectivement, qui est peut-être plus élégant. Et on s'est dit, ok, très bien, mais maintenant il faut s'y mettre. Et comment est-ce que les communes vont s'y prendre? Donc il y a eu tout un travail sur l'année 2017 qu'on a appelé Open Data Local, qui était du transfert d'expérience en fait entre les pionniers qui ont été évoqués, qui avaient déjà fait de l'open data, qui avaient un peu essuyé les plâtres, hein, qui avaient pu tester aussi ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, les difficultés internes et les difficultés de relation avec le territoire éventuellement. Comment ils pouvaient faire bénéficier de leur expérience des acteurs de leur territoire avec l'aide d'Open Data France qui a un petit peu formalisé des méthodologies de travail, des outils de formation. Et puis on a également réfléchi, et ça peut répondre à une problématique qui a été rapidement évoquée tout à l'heure, à finalement quelles sont les données que j'ai et quelles sont les données qu'il faut que j'ouvre, par quoi est-ce que je démarre ? Parce que voilà, ok, il faut que je fasse de l'open data, j'ai plein de choses en stock, lesquelles je prends ? On a fait une petite liste qu'on appelle le socle commun des données locales, qui liste une dizaine de jeux de données. On va retrouver là-dedans les marchés publics, les délibérations, les subventions, mais aussi la liste des prénoms qui ont été attribués par l'État civil dans l'année écoulée. Voilà, on a listé un petit peu comme ça des données que toute commune manipule, et on a essayé de les normaliser en fonction des retours d'expérience des territoires, à la fois d'un cadre réglementaire qui peut nous être imposé, comme les marchés publics par exemple, mais aussi de, ben voilà, sur mon territoire, quand je veux rendre public les prénoms, voilà les difficultés que j'ai rencontrées, et voilà le fichier type auquel je suis arrivée. Donc une expertise des gens qui font sur le terrain. Et ça fait un petit kit de démarrage en quelque sorte. Voilà. Vous voulez démarrer, ben écoutez, vous ne prenez pas trop la tête, piochez donc dans cette liste de données et démarrez par ça. Et puis retournez-vous vers vos voisins sur votre territoire qui ont déjà fait de l'open data et qui peuvent vous aider. Ça, c'était le gros travail de l'année dernière et puis qui doit continuer. Et puis il y en a un autre qui est intéressant également, c'est l'Observatoire de l'open data territorial, qui justement essaie de regarder un petit peu, ok, on a cette obligation, mais à quel point est-ce que les territoires arrivent à la remplir ? Et donc on a mis en place un observatoire qui est à la fois quantitatif et qualitatif, c'est-à-dire qui va compter les communes, les régions, les départements, les communautés d'agglos, les métropoles qui font de l'open data par rapport au nombre qu'ils sont censés faire d'après la loi, combien de données elles ont libérées, quelles sont les données qu'elles ont libérées, etc. Et puis des choses un petit peu plus qualitatives avec des questionnaires en direction de ces collectivités sur quelles sont les difficultés que vous avez, est-ce que la question des données personnelles c'est quelque chose auquel vous êtes confronté régulièrement, comment j'anonymise un fichier, enfin voilà, ce genre de remontées. Pour avoir un peu une vue consolidée de l'état de l'open data en France.
D'accord.
Alors là, on parle uniquement de l'open data dans les collectivités locales. C'est la mission étalable du gouvernement qui accompagne les services de l'État, donc les grandes administrations, les ministères et les décentralisations régionales et départementales dans les territoires. Tout ce travail d'Open Data France pour une meilleure dynamique collective à l'échelle nationale.
Alors, merci Laurence Compara. Effectivement, vous parlez d'État Lab qu'on aura sans doute l'occasion d'inviter prochainement aussi pour parler de logiciels libres, pas simplement de données publiques. On va faire une petite pause musicale, elle est vraiment courte. C'est Under the Sky of Jah, l'album c'est Exorcist de Steel par notre ami Rico da Alvarez.
Toutes nos émissions en libre écoute, cause-commune.fm. Thank you. Cause commune, cause-commune.fm. 93.1.
Eh bien, vous êtes de retour sur l'émission Libre à vous sur Radio Cause commune, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site cause-commune.fm. Vous venez d'entendre donc The Under the Sky of Jah par Rico da Alvarez. Nous sommes toujours mardi 2 octobre 2018, il est 16h02 et nous parlons de données publiques ouvertes, donc avec Laurence Compara de la ville de Grenoble, Xavier Bern du journal d'investigation et d'actualité Next Impact, de Tanguy Morlier du collectif Regards Citoyens et de mon collègue Étienne Gonu en charge des affaires publiques qui est toujours là. Alors juste avant la pause, nous faisions un petit état des lieux, une présentation donc des données publiques ouvertes. Ça semblait un petit peu magnifique et tout semblant être très beau effectivement. Il y a des collectivités qui ont une démarche effectivement proactive sur le sujet. Il y a aussi des administrations. Mais est-ce que finalement c'est la majorité ou est-ce qu'au contraire pour l'instant il y a des difficultés pour la mise en œuvre de l'accès à ces documents administratifs et à la diffusion de ces données publiques? Donc j'ai envie de donner la parole à Xavier puis à Tanguy, donc justement sur ces difficultés et les manières d'agir pour une personne qui voudrait accéder à un document administratif qui l'intéresse. Xavier Berne.
Effectivement, moi aussi j'ai bien écouté Laurence Compara, on a l'impression que tout fonctionne bien, mais en fait en réalité il y a quand même parfois de grandes difficultés pour obtenir certains documents, et j'ai même envie de dire que plus c'est sensible, plus c'est difficile de les obtenir. Voilà, dans le cadre de nos enquêtes, c'est vrai qu'on fait très souvent des demandes de communication de documents administratifs, notamment sur des rapports. L'année dernière, je pense que j'ai dû en faire à peu près quasiment près d'une centaine. Et ce qu'on remarque, c'est que dans de très nombreux cas, en fait, l'administration ne répond même pas à la demande. C'est-à-dire que du coup, on n'a pas de retour. Donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? En fait, au bout d'un mois, on a le droit de saisir ce qu'on appelle la commission d'accès aux documents administratifs, la fameuse CADA, d'où vient le nom de la loi CADA de 1978. La CADA, c'est une autorité publique indépendante. C'est un petit peu comme un médiateur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une administration ne communique pas un document ou refuse clairement de le communiquer, on peut demander à cette commission de se prononcer pour savoir si oui ou non l'administration refuse à bon droit ou pas de communiquer le document. Donc les administrations bien souvent ne répondent pas, il faut saisir la fameuse CADA. Le problème c'est que la CADA a visiblement énormément de travail et met très longtemps avant de rendre ses avis. Aujourd'hui on va dire que le délai à peu près moyen, je dirais qu'il est de l'ordre de 6 mois avant d'avoir un avis de la CADA. Donc vous imaginez le temps qu'il faut entre le moment où est-ce qu'on saisit l'administration, on attend 1 mois, après il faut à nouveau attendre 6 mois supplémentaires pour que la CADA se prononce.
Parce que le délai de réponse normalement de la CADA c'est combien?
C'est 1 mois le délai légal.
C'est ça, il faut préciser incroyable. Que le délai légal c'est 1 mois, et donc là la moyenne c'est 6 mois.
Oui, à peu près, voilà. Moi c'est ce que je constate personnellement. D'accord. Après il faudrait retrouver les chiffres exacts dans le dernier rapport d'activité de la CADA pour ne pas dire de bêtises. Mais moi,
je ne suis même pas sûr qu'il soit vraiment réel, mais...
Ça correspond à ce qu'on...
Ça correspond à une certaine expérience de l'April aussi. Ouais. Mais voilà, ouais. Donc continue donc.
Donc voilà, et même une fois qu'on a l'avis de la CADA, des fois, même si la CADA dit l'administration a tort de ne pas communiquer le document, l'administration peut encore traîner des pieds et parfois ça met du temps avant que l'administration s'y plie, puisqu'en fait les avis de la CADA ne sont pas contraignants. C'est-à-dire que c'est juste un avis. Donc après, l'administration, elle en fait un petit peu ce qu'elle veut. Donc en fait, si elle a envie de décourager le citoyen, non seulement elle ne répond pas à la base, ensuite elle fait traîner les choses devant la CADA, ensuite elle ne communique pas le document. Le citoyen, derrière, après, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne lui reste plus qu'à saisir le juge administratif. Et là, on est sur une procédure qui est bien encore plus longue, qui est bien plus coûteuse, vu que saisir la CADA, par contre, c'est gratuit. Voilà, je pense que voilà, c'est assez compliqué. Et sur l'open data par défaut, malheureusement, on constate qu'il y a le même genre de difficulté, c'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas de sanctions, les administrations font un petit peu ce qu'elles ont envie de faire, même si je pense qu'il y en a beaucoup qui font des efforts. Voilà, oui, voilà. Ok.
Mais du coup, c'est beaucoup ce qu'elles peuvent faire. Après, je dis pas qu'il n'y a pas.
Non, mais après, voilà, vous êtes là, je veux pas.
Ou quoi que ce soit, mais le cœur du problème, c'est une question de moyens, clairement.
Alors, quand on parle de moyens.
Open data par principe, hein, je ne parle pas de l'accès aux documents administratifs plus classiques. De toute façon, l'absence de réponse, que ce soit une demande de documents administratifs ou tout autre contact avec la collectivité,
Vous pensez vraiment que c'est uniquement une question de moyens, que c'est pas aussi une question d'organisation? Parce que moi, personnellement, j'ai quand même l'impression que cette histoire d'open data par défaut, c'est aussi un problème d'organisation. Parce que si les documents administratifs, quand ils étaient créés, ils étaient conçus pour un jour être mis en ligne, on n'aurait pas les difficultés qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit bien que quand on fait une demande de documents administratifs, ça arrive à un service, la secrétaire qui doit transmettre au service juridique, qui après va voir le service qui a produit le document, le temps que ça remonte. Ça, c'est pour ça aussi que ça met énormément de temps. Ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question d'organisation interne.
Alors, je mets l'organisation dans les moyens, hein, personnellement.
D'accord,
mais
okay.
Oui, clairement. C'est là où, quand je dis que c'est un choc culturel,
oui, voilà,
cette ouverture par principe, c'est vraiment l'expression. Hein. Aujourd'hui, nos services ne sont pas conçus, ne sont pas organisés pour que l'information
soit partagée
automatiquement, systématiquement, sorte de l'institution. Ils ne sont même pas organisés pour qu'elle circule au sein de l'institution. Donc on part de très très loin.
Mais il ne faut quand même pas omettre un des problématiques que touche le partage des données publiques, c'est le partage de l'information, de la connaissance, c'est le partage du pouvoir. Et il se trouve qu'un certain nombre de collectivités territoriales ne sont pas du tout équipées et il n'y a aucune volonté politique de partager le pouvoir. Lorsqu'on voit un certain nombre d'alternances politiques où les bureaux sont vidés, les tiroirs et tous les dossiers disparaissent lorsque une nouvelle majorité apparaît dans les institutions, c'est qu'il n'y a pas seulement un problème de moyens. Le problème de moyens, c'est un argument classique de la part de toute administration pour excuser le fait qu'elle ne puisse pas faire. Mais dans la réalité des faits, s'il y avait une culture de la transparence démocratique et s'il y avait une culture du partage de pouvoir au sein des administrations et notamment au sein des élus des collectivités territoriales, il n'y aurait pas vraiment besoin de moyens. Pour pouvoir mettre en place
Alors là, une. Je suis absolument pas d'accord.
Bah, quand on regarde par exemple la culture du logiciel libre ou la culture du partage de la connaissance comme Wikipédia, créer une encyclopédie mondiale à l'échelle mondiale, si c'est fait par des gens qui veulent centraliser le pouvoir comme des gens de Microsoft, ça coûte extrêmement cher. Mais si c'est fait par des citoyens qui prévoient le partage du pouvoir à la base, ça coûte pas si cher.
Le temps qui passe ces citoyennes et ces citoyens, il est loin d'être anodin. Ok, c'est pas financier, ok, c'est pas un retour sur investissement classique, mais il y a une mobilisation de moyens qui est extrêmement conséquente, qui est beaucoup plus intéressante qu'une centralisation microsoftienne, je suis 100% d'accord, mais qu'on ne me vienne pas dire que ça ne demande pas de moyens.
On n'a pas dit que ça ne demandait pas de moyens, on dit que l'administration a des moyens et qu'elle n'oriente pas ses moyens vers un partage du pouvoir et un partage de la connaissance. La majorité, hein, je ne dis pas qu'à Grenoble, il ne se passe pas des choses intéressantes, mais quand on voit par exemple l'Association des maires de France qui fait du lobbying, qui va voir tous les ministres, tous les sénateurs, tous les députés pour leur dire qu'il ne faut absolument pas d'open data par principe, c'est qu'il y a quand même une résistance assez forte à faire confiance aux citoyens et à leur dire qu'on peut co-construire la connaissance autour d'un territoire.
Complètement. Alors, il y a trois problèmes différents. Il y a un, est-ce que l'administration est en état de marche? La réponse est non, clairement. Et ça, je n'ai jamais prétendu le contraire. Il y a un gros travail d'évolution de nos institutions, mais rien qu'en termes d'organisation. Je ne parle même pas de la culture,
ouais,
etc.
Ouais. Je suis d'accord. C'est ce que nous, on appelle...
À le faire, là, j'ai envie de dire, ça peut dépendre des courants politiques. Et est-ce que notre démocratie, d'une manière générale, est suffisamment adulte pour se dire qu'on entre dans une ère du partage, de la co-construction de manière systématique? Là aussi, clairement, la réponse est non pour l'instant. Par contre, tout aussi clairement, et en tout cas, moi et mes collègues à Grenoble, on le ressent très fortement sur le terrain, la plupart des élus, beaucoup les institutions, sont très en retard par rapport aux citoyennes et aux citoyens sur ces questions-là. On se fait, excusez-moi l'expression, mais on se fait pousser au cul là-dessus, et c'est très bien. Et effectivement, ce côté renverse le côté, il y a l'institution qui surplombe et il y a les citoyens qui reçoivent ce qu'elle veut bien leur donner sans trop leur expliquer comment ça marche, c'est complètement asine. C'est plus acceptable aujourd'hui, on est complètement d'accord.
Je crois
Par
que vous...
contre, réorganiser l'administration et réorganiser la place des élus là-dedans pour renverser cette pyramide-là, c'est un sacré boulot. Il faut le faire, on s'y emploie à notre niveau. Mais il ne faut pas minimiser le travail titanesque que c'est.
On est d'accord. Je crois que c'était pas du tout l'objet. Je pense que Xavier et moi, on était un petit peu piqués sur l'aspect des moyens. On est d'accord qu'on est dans une révolution. On passe d'une démocratie du papier dans laquelle les échanges étaient longs, que l'administration pouvait se protéger, à une démocratie du numérique dans laquelle les échanges sont plus fluides. On peut co-construire des politiques publiques, mais c'est clair que cette migration n'a pas encore lieu. Par contre, on ne peut pas se cacher derrière l'excuse de « on manque de moyens ». C'est pas vrai. La démocratie du papier, ça coûte extrêmement cher. Envoyer le JO au début du 19e...
Ah non, attendez, j'ai pas dit que l'organisation actuelle, elle était parfaite. Hein. J'ai dit qu'il fallait qu'on change. Et changer, ça demande du temps, ça demande effectivement d'utiliser les moyens qu'on a différemment, mais ça se fait pas d'un claquement de doigts.
On est d'accord.
Particulièrement quand il n'y a aucune culture numérique au sein de nos institutions. Aucune. C'est déplorable. Je ne dis pas ça, c'est évidemment pas une critique des femmes et des hommes qui y travaillent. Ils n'ont jamais été formés sur ces questions. La formation des agents territoriaux, que de la catégorie C à la catégorie A, les écoles de cadre, ne proposent rien de valable sur ces questions-là. Il y a un retard de culture numérique, en particulier dans la fonction publique territoriale, globalement, et qui est la faute à personne et à tout le monde, mais qu'on constate au quotidien dans nos institutions, qui fait que... Voilà, ça demande de former, ça demande de changer les organisations, ça demande de dématérialiser, ça demande de sortir de cette culture du papier que vous dénoncez fort justement. On tape dans le mur. Hein. Il faut.
Je crois que vous êtes effectivement d'accord et qu'en fait vous êtes.
Mais ça va demander du temps.
Voilà, et que vous vous battez effectivement à deux niveaux différents pour la même chose. Je pense que la prochaine émission qu'on consacrera aux données publiques, si on réinvite Regards Citoyens, on invitera aussi sans doute le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. Parce que eux, leur
Bercy,
culture.
Ou Bercy.
Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi, j'aimais bien Bercy. Bercy, effectivement, notamment pour la libération, enfin l'ouverture du code source des impôts, la personne qui avait demandé l'accès a dû aller jusqu'au tribunal administratif, effectivement. Donc on invitera ces gens-là qui ne sont pas du tout dans cette culture-là. Mais là, effectivement, entre personnes qui sont dans cette dynamique-là, je vois le temps qui file parce que Xavier Bern va bientôt devoir nous quitter et puis nous avons évidemment d'autres sujets ensuite. Est-ce que Xavier, tu voulais réagir là-dessus ou rajouter quelque chose avant que tu partes tout à l'heure ou sur un autre sujet ?
Je ne sais pas. Vas-y. Parlais peut-être un petit peu de l'histoire de l'open data par défaut, puisqu'effectivement, c'était quelque chose. Donc, j'ai dit que c'était en plusieurs mouvements. Donc, en fait, l'open data par défaut, par principe, il y a eu une première pierre qui a été posée, puisque c'est en vigueur depuis le mois d'avril 2017. Et en fait, là, tous les documents qui sont communiqués individuellement au titre de procédure CADA, donc en fait, quand le citoyen demande un document, s'il lui est donné par voie électronique, par mail, l'administration est tenue également de le mettre en ligne. Ça, c'est depuis avril 2017. Et on voit que même ça, c'est déjà trop difficile. Alors que le document, il est déjà numérisé. Le document, il a été envoyé par email aux citoyens. Il y a déjà eu les occultations sur les données personnelles. Il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est le mettre en ligne sur un site internet. C'est quand même pas forcément très compliqué. Et on voit que même sur ça, ça ne fonctionne pas. Et du coup, c'est pour ça que via Next Impact, on a décidé de porter ça devant le tribunal administratif pour la simple et bonne raison qu'en fait, à notre sens, ce dispositif-là est bien plus intéressant que ceux qui vont entrer en vigueur ce week-end. Pourquoi ? Parce qu'ils font intervenir le citoyen. Si des citoyens demandent un document administratif, il y a de fortes chances pour qu'il intéresse d'autres citoyens et certains journalistes. Et c'est pour ça qu'on a décidé de porter ça devant le tribunal administratif. Et en l'occurrence, c'était pour un document du ministère de l'Intérieur, un rapport que j'avais moi-même sollicité, mais juste au titre d'une communication individuelle et qui n'a toujours pas été mis en ligne par le ministère de l'Intérieur. C'était un rapport tout simple sur l'utilisation des caméras piétons qui faisait 4 pages. Un fichier de 1 mégaoctet, plutôt que de le mettre en ligne, le ministère de l'Intérieur a préféré répondre à notre requête devant le tribunal en expliquant au fil de 7 pages pourquoi il refusait de se plier à cette nouvelle obligation. Et en l'occurrence, c'était plutôt pour... ils ont évoqué des questions de forme, des vices de procédure, l'absence d'intérêt à agir de notre part. Ça montre quand même aussi que les réticences, ce n'est pas non plus qu'une question de moyens, il y a vraiment bien une question de culture aussi, même on en a parlé, j'ai bien compris que vous aviez englobé tout ça derrière, mais je voulais quand même y revenir parce qu'effectivement, moyen, c'est peut-être un petit peu restrictif comme terme.
Et c'est sans doute les plus grandes avancées en matière, sur la loi numérique en matière de données publiques, sont sans doute de donner les capacités aux citoyens de faire bouger les administrations. Parce que malgré tout, l'administration, elle a un rythme qui mesure pas forcément l'importance des données publiques, et le fait que on donne la capacité à des journalistes, à de simples citoyens, d'exiger la publication en open data sur le site des collectivités et sur le site des administrations, c'est sans doute la plus grande avancée. Alors, ça va prendre un petit peu de temps, puisque visiblement, les administrations ne sont vraiment pas prêtes. Elles sont prêtes à dépenser des moyens incroyables pour répondre devant le tribunal administratif à des journalistes ou des citoyens, plutôt que de mettre un méga sur le site web du ministère de l'Intérieur, alors qu'il y a quand même énormément de place sur le site web du ministère de l'Intérieur pour pouvoir héberger ce document. Ça va prendre un petit peu de temps, mais si chacun de nos auditeurs pense à un rapport qu'il aimerait pouvoir voir sur le site du ministère de l'Intérieur ou sur le site de Bercy ou sur le site de la mairie de Paris ou de la région Île-de-France pour nos auditeurs franciliens, eh bien, il ne faut pas qu'ils hésitent. Il suffit d'écrire un email à contact@l'institution pour leur demander et exiger qu'ils mettent en ligne le rapport sur les caméras piétons, sur les dépenses des collectivités territoriales, etc., etc. Ça suffit à faire avancer les choses.
Alors, juste avant de vous repasser la parole, Laurence, on va dire au revoir à Xavier Bernd, car il a un train à prendre. Donc
absolument. Merci beaucoup. Et pour ceux qui voudraient faire une demande CADA, j'avais quand même écrit un petit article l'année dernière, comment faire une demande CADA, voilà, si ça peut être utile à certains, c'était fait pour ça.
C'est un super article. Okay. En plus, il est en libre accès sur Next Impact, donc il ne faut pas hésiter. Logique.
Donc on va rajouter le lien sur la page de référence sur le site de l'April, effectivement, pour trouver ce document qui permet d'expliquer comment on fait concrètement une demande CADA. Donc merci en tout cas, Xavier, et puis à bientôt.
À bientôt.
Donc Laurence, on va bientôt on va faire le tour de table final, parce que on va bientôt devoir changer de sujet. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce thème-là ou sur un autre thème?
Je crois qu'effectivement, on a quand même pas mal balayé les thématiques. On voit bien qu'il y a des choses qui sont assez enthousiasmantes au plan des principes et qu'on est confronté à des difficultés de mise en œuvre qui sont réelles, hein, clairement. Et du coup, moi, je trouve extrêmement intéressant justement ce dialogue avec les territoires, avec les citoyennes et les citoyens dans le cas qui nous occupe, parce qu'effectivement, c'est aussi quelque chose qui peut bousculer l'administration. Et moi, je le vois en tant qu'élu, quand c'est pas uniquement l'élu qui enquiquine les agentes et les agents avec ses grands principes politiques, mais qu'il y a de la demande qui vient du territoire, ça change complètement la perspective. Ça change complètement la perspective et ça peut même la rendre tout à fait positive. Il faut jamais oublier que rendre public des données, des rapports, etc., c'est rendre public le travail des agentes et des agents de la collectivité. On a 4000 agents, agentes dans une ville comme Grenoble et son centre communal d'action sociale. Il y a de la force de travail, il y a du travail qui est fourni, il y a de la compétence. Le service public, il est fourni au quotidien par ces personnes-là. Et c'est aussi un moyen de rendre visible un travail qui est souvent caché dans l'ombre, en fait. Et c'est aussi ça qu'il faut qu'on ait en tête.
Merci Laurence. Tanguy, est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Je suis tout à fait d'accord. Nous, notre Regard citoyen est né de cette découverte du travail parlementaire où on a été extrêmement surpris de voir des parlementaires travailler sur des sujets aussi pointus que les DRM ou les brevets logiciels jusque extrêmement tard dans la nuit. Et c'est par cette découverte qu'on a voulu valoriser l'activité des parlementaires et que ensuite on s'est intéressé à tout un tas de sujets liés à l'activité parlementaire ou plus largement à la démocratie locale ou nationale. Et donc j'invite les élus ou les agents et les agents de public qui nous écoutent à bien prendre en dimension ça. Oui, le citoyen peut débarquer un petit peu fou, un petit peu énervé. Mais si on arrive à rendre positif cette énergie au service des services publics et au service des institutions, eh bien, notre démocratie s'en sentira grandie.
Tout à fait.
Eh bien, c'est une belle conclusion. Donc, je remercie Laurence Compara, adjointe à la ville de Grenoble, en charge notamment de la libération des données publiques et également présidente de l'association Open Data France. Merci Laurence.
Merci à vous.
Et je remercie évidemment Tanguy Morlier qui intervenait au nom du collectif Regards Citoyens, qui aura sans doute l'occasion de revenir, en tout cas le collectif, sur un autre sujet.
Merci.
Donc avant de changer de sujet, on va faire une petite pause musicale. Alors ça, c'est une découverte de ma cousine, qui est le pseudo d'une personne...
Ah non, c'est pas ta cousine.
Non, je n'ai pas de cousine. Donc c'est le pseudo d'une personne sur le salon de discussion web qui, de temps en temps, propose des playlists de musique. Et il y en avait une qui me plaisait particulièrement et qui fait référence aussi à la discussion qui a eu lieu tout à l'heure lors de pause commune entre midi et 14h, ça parlait de migrants. C'est une chanson en hommage et en soutien aux migrants. Donc ça s'appelle Sin Papeles par Dumba Bass Culture Players. Et on se retrouve juste après.
Toutes nos émissions en libre écoute. cause-commune.fm.
Hey. Lágrimas con el esfuerzo, el que no lo sabe, el porque no lo ha tenido que padecerlo. Aunque a muchos nos miran como criminales, no tienen menos por ser inmigrante. Resulta que no hacemos daño a nadie, no queremos ver en la gente ese desprecio. Lo único que hacemos es luchar por nuestra familia. Dios creó al mundo, los seres humanos crearon fronteras, pero todos somos iguales. Ah, no debemos dejar a nadie afuera. No debemos dejar a nadie afuera. Sin papeles, sin voz. Sin papeles, sin libertad. Sin papeles, sin derecho. Sin papeles, sin consideración. Sin papeles, sin voz. Sin papeles, sin libertad. Sin papeles, sin derecho. Sin papeles, sin consideración.
Cause commune, cause-commune.fm
93.1. Vous êtes de retour sur l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Vous venez d'écouter Sin Papeles par Dumba. Et donc la référence est évidemment sur la page, sur le site de l'April qui donne toutes les références. Donc, nous allons changer de sujet après avoir parlé, en fait pas totalement d'ailleurs, de données publiques et de collectivités. Vu que nous allons parler maintenant d'un label qui s'appelle le label Territoire Numérique Libre, et normalement nous avons depuis Montpellier Béatrice Jean-Jean, donc par téléphone. Béatrice, est-ce que tu es là ?
Oui, bonjour, je suis là.
Alors Béatrice, donc, tu es chargée de communication donc, à l'ADULACT, qui est l'association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités territoriales, et tu t'occupes notamment... du label Territoire Numérique Libre. Ah bah, ma première question sera simple. Hein. Qu'est-ce que le label Territoire Numérique Libre ?
Ah oui, alors le label Territoire Numérique Libre, c'est un label qui a été créé en 2016 en fait, pour récompenser les territoires qui utilisent ou qui privilégient les logiciels et licences libres voilà, dans leurs services. C'est vrai qu'à l'ADULAC, tout au long de l'année, on côtoie des collectivités qui font des efforts en ce sens, qui ont des démarches pour s'affranchir de logiciels propriétaires, qui mettent par exemple du Ubuntu dans leurs écoles, qui mettent en commun leurs moyens financiers pour développer des outils libres, qui financent des événements autour du libre comme des hackathons. Et on voulait vraiment récompenser les efforts de ces collectivités, montrer qu'utiliser du logiciel libre dans le service public, c'est une démarche qui devrait être naturelle. Donc, dans un monde parfait, c'est vrai que tous les logiciels financés par l'argent public devraient être publiés sous licence libre. C'est un petit peu l'idée de la DULACT et puis de nombreuses campagnes comme la campagne européenne Argent public, Code public. Et tout à l'heure, dans l'émission, vous parliez des administrations. C'est vrai que les collectivités actuellement sont un petit peu dans le même processus. Il y a différents rapports et directives qui les poussent vers le sens du libre, qui dit que le libre, bah, c'est quelque chose qui, vers lequel il faut aller, mais il n'y a pas d'obligation. Et donc, il est essentiel pour nous d'encourager toutes les volontés politiques qui vont dans le bon sens.
D'accord. Et donc, pour une collectivité, quels sont les intérêts à candidater à un tel label ?
Alors, en fait, le label, on l'a conçu en fait pour répondre à trois objectifs. Un objectif d'évaluation, de sensibilisation et de valorisation. Alors, la partie évaluation, mais en fait, c'est vrai que le dossier de candidature permet à la collectivité de faire un peu un état des lieux de ces usages numériques libres, donc quelle stratégie a été mise en place, où en est la migration, quelles sont les contributions de la collectivité à différents outils libres. Pour la partie sensibilisation, c'est vrai qu'en fait, l'usage des logiciels libres dans une collectivité, ça concerne à la fois les élus, les agents, mais aussi les administrés. Et parfois, la volonté, elle vient du service informatique qui a un petit peu plus de mal à convaincre les élus, qui a envie de sensibiliser sur le point. Et puis parfois, c'est au contraire la volonté d'un élu. Et il va falloir un petit peu faire la sensibilisation au niveau justement du service informatique ou au niveau des administrés pour leur montrer que l'argent public est bien employé. Donc voilà, et la dernière mission, c'est une mission de valorisation, c'est-à-dire qu'une collectivité qui va candidater, elle va le faire pour faire connaître et reconnaître ses actions en matière de logiciels libres, en matière d'open data dont on parlait tout à l'heure. Et voilà, c'est un label qui permet de se démarquer.
D'accord, et donc il y a différents niveaux de labels qui permettent justement de mesurer peut-être l'évolution de l'implication et des démarches logiciels libres et données publiques dans la collectivité ?
Tout à fait. Hein. Le label, comme de nombreux labels, hein, est gradé en fait de 1 à 5. Donc, par exemple, pour Fleury, on va avoir des petites fleurs. Là, c'est des copylefts. Donc, c'est gradé de 1 à 5 copylefts. Et donc, les collectivités candidates qui ont entrepris une première démarche vers le libre, ne serait-ce qu'en utilisant des premiers outils libres sur le poste de travail, hein, il en existe de nombreux hein, qui sont très accessibles, obtiennent donc un minima le niveau 1. Donc, c'est le niveau en fait de la première reconnaissance des efforts accomplis, de la découverte, et ça va jusqu'au niveau 5, donc niveau d'excellence qui n'a encore pas été atteint.
Peut-être cette année, on verra.
Alors, peut-être cette année, on espère.
Alors, donc, ce label est organisé donc par l'ADULACT, mais est-ce qu'il est organisé en partenariat avec d'autres structures, avec le soutien de structures institutionnelles ?
Tout à fait. Donc, il est organisé, en fait, il y a un comité d'orientation qui est en place, donc avec la DINSIC, la Direction informatique de l'État, l'APRIL, l'AFUL, qui sont tous les deux des associations de défense du libre. Hein, donc, on est tous dans le même créneau, avec le pôle Akinetic, qui est un cluster d'entreprises du numérique libre, et la ville de Saint-Martin-du-Riage, qui représente, entre guillemets, la vision élue, en fait, hein, au sein du comité.
D'accord. Akinetic, le pôle, c'est de la région de Bordeaux, si je me souviens bien.
Tout à fait.
Ouais. Donc, c'est la troisième édition cette année. Est-ce que tu peux nous dire combien il y a eu de collectivités labellisées les années précédentes, donc en 2016 et 2017? Et est-ce qu'il y a des types de collectivités particulières ou des exemples marquants de collectivités qui ont reçu un label?
Oui, tout à fait. Alors, en 2016, pour la première édition, on a eu 16 candidatures. Et en 2017, on en a eu 23. Et on va dire qu'en comptant les collectivités qui ont recandidaté d'une année sur l'autre, ça fait un total d'environ une trentaine de collectivités qui ont été labellisées en 2017. Donc, c'est intéressant. Bien sûr, on a envie de dépasser ce chiffre cette année. On a envie de toucher de nouvelles collectivités. Au niveau des types de collectivités, en fait, ça s'adresse vraiment à toutes les collectivités territoriales, donc c'est-à-dire villes, agglos, communautés de communes, départements, régions. On n'a pas encore eu de candidature de région, mais j'espère cette année aussi. Mais on a eu 3 départements. On a eu la Gironde, les Côtes-d'Armor et le Rhône, qui sont déjà tous labellisés. On a eu aussi un centre départemental d'incendie et secours en 2016. Et comme exemple marquant, par exemple, l'an dernier, on a eu une petite collectivité, la Devèze-Rivière, avec 220 habitants, qui a eu un niveau 3. C'est quand même un beau niveau et ça prouve qu'on peut faire du libre, hein, même en étant dans une toute petite collectivité avec de petits moyens.
D'accord. Et donc, comme c'est effectivement, c'est un label qui est par année, donc une collectivité, d'ailleurs, je crois que tu l'as dit, qui a déjà obtenu un label, doit resoumettre une candidature en 2018 pour pouvoir recevoir un nouveau label et éventuellement changer de niveau.
Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que une nouvelle candidature, bien sûr, ce n'est pas une obligation, mais c'est intéressant parce que le questionnaire, il évolue d'une année sur l'autre. Cette année, par exemple, nous avons inauguré une nouvelle partie stratégie pour recenser en fait les démarches de mutualisation en cours et à venir et en fait mieux cerner les intentions politiques derrière les choix. Parce que derrière les choix matériels, etc., il y a toujours une intention. Et voilà, c'était pour un petit peu mieux analyser cette stratégie mise en place sur les territoires.
D'accord.
Donc c'est intéressant pour une collectivité de revenir, ne serait-ce parce que c'est une nouvelle occasion de communiquer aussi sur les démarches qu'elle fait, de mettre à jour cette information, voilà, de refaire un état des lieux.
Ok. Et une collectivité donc qui doit candidater, quelle est tu as parlé d'un questionnaire, donc est-ce que c'est un questionnaire papier? On a parlé de papier tout à l'heure. Est-ce que ça fait un formulaire en ligne? Quels sont les sujets abordés? Le nombre de questions?
Oui, tout à fait. Alors, la candidature, elle est assez simple et facile. Quand je dis simple et facile, c'est parce que je sais qu'il y a des labels où il faut des semaines de préparation pour constituer le dossier. Ici, on a estimé qu'il faut à peu près, voilà, il faut à peu près une demi-journée pour remplir le questionnaire. C'est assez rapide, voilà. Pour candidater, en fait, il faut que la collectivité mandate 2 référents, dont un élu. Bien sûr, peut préparer en amont sa candidature en téléchargeant la liste des questions qui est disponible sur le site en version PDF, pour préparer donc en amont. Et ensuite, elle enregistre sa candidature en ligne. On a un formulaire Framaform qui est disponible. Il y a environ une centaine de questions réparties en 5 parties. Donc l'identification de la collectivité, la partie stratégie et mutualisation, les formats ouverts et les logiciels et systèmes libres, bien entendu, c'est la partie la plus importante où on va vraiment la faire un état des lieux. Et une partie communication écosystème pour voir si la ville contribue à l'écosystème au travers des entreprises, associations sur son territoire. Et une partie open data, hein, c'était le sujet tout à l'heure. Donc c'est relativement aisé, entre guillemets, à remplir, même pour une première candidature.
D'accord. Quelle est la date limite pour candidater? Je suppose que c'est prochainement.
Oui, tout à fait. Les candidatures se terminent le 15 octobre à minuit. Le délai, effectivement, de 15 jours est largement suffisant pour les collectivités qui découvriraient le label aujourd'hui. Il y a encore le temps, tout à fait, de candidater.
D'accord. Alors, donc, le label, donc la date limite, c'est le lundi 15 octobre. Quand est-ce que seront annoncés les résultats et la remise des prix aura lieu ou à Paris ou ailleurs? Ou à Montpellier, peut-être?
Alors, il y a eu les premières remises de labels qui ont eu lieu à Paris. Mais cette année, voilà, on change un petit peu de contexte et de cadre. En fait, on va annoncer les résultats en même temps qu'une remise de labels qui aura lieu à Bordeaux le 6 novembre 2018 vers 17h30. Et c'est dans le cadre en fait, de l'organisation de la première convention open source Beboost qui est donc organisée cette année à Bordeaux. C'est une convention professionnelle organisée notamment par Polacity Kinetic, par la région, etc. Et il y aura le même jour organisé une table ronde avec des collectivités déjà labellisées qui vont venir faire part de leur expérience en fait sur le terrain. Voilà, donc le 6 novembre 2018, tous les résultats seront affichés et dans la foulée seront communiqués sur site internet, bien entendu.
Donc les collectivités qui vont candidater doivent réserver déjà leur déplacement à Bordeaux le 6 novembre pour recevoir leur label. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? J'ai l'impression qu'on a fait le tour de la présentation de ce label. Ou est-ce que tu veux rajouter une précision?
Alors, ben, simplement d'aller voir le site
alors,
et
le site
de se renseigner. On a vraiment envie de toucher de nouvelles collectivités, surtout de montrer que par des petits efforts, c'est simple de mettre un pied dedans et que la plupart des collectivités, finalement, utilisent déjà des logiciels libres sans forcément en avoir conscience. Donc, peut-être que beaucoup, beaucoup plus de collectivités mériteraient ne serait-ce que d'entrer dans le palmarès au niveau 1.
D'accord. Alors, le site web, on va le donner, hein, c'est territoire-numérique-libre.org. Donc, il sera aussi sur le site de l'April dans la partie référence. Donc, les collectivités ont jusqu'au donc, lundi 15 octobre 2018, 23h59 pour candidater. L'autre date importante, donc, c'est la remise des labels mardi 6 novembre, donc, lors de la convention BeBoost à Bordeaux. Donc, le site de la convention BeBoost, c'est b-boost.fr. Et le site de la Dulact, c'est adulact.org avec deux L pour, comme logiciel libre. Écoute, Béatrice, merci de ton intervention. Je crois que c'est tout à fait clair. Et j'espère effectivement qu'il y aura de nouvelles collectivités qui vont candidater à ce label et que d'autres vont évidemment gagner des marches dans les niveaux de label.
Et donc, merci de m'avoir reçu.
Et de rien, écoute, puis au plaisir de se voir bientôt. Je te souhaite une bonne journée en tout cas.
Merci beaucoup.
Au revoir. Alors, j'encourage évidemment les collectivités à aller voir le site du territoire numérique libre, mais aussi également les autres personnes pour voir quelles collectivités sont labellisées. C'est-à-dire, peut-être que vous habitez dans une collectivité qui a été labellisée. On va attaquer notre dernier sujet, qui est un sujet récurrent, qui va encore nous occuper d'autres émissions, je pense, on pourrait dire presque malheureusement. Oui. C'est le point sur la directive droit d'auteur, donc suite au vote le 12 septembre 2018 au Parlement européen. Donc Étienne est toujours là, il va pouvoir donc faire un petit point sur ce qui s'est passé lors de ce vote et puis ce qui va se passer dans les mois à venir. Étienne ?
Alors oui, tu en parlais, donc vote important là, qui a eu lieu donc, le 12 septembre. Et dont le résultat nous a assez fortement déçus. Alors, comme on le titrait dans notre communiqué de presse du 13 septembre, donc le lendemain de ce vote, mercredi 12 a été une journée noire pour les libertés sur Internet. Les parlementaires européens ont adopté la proposition de directive à 438 voix contre 226, donc quand même avec une majorité très large. Et dans le texte qu'ils ont adopté, ils ont adopté la généralisation du filtrage automatisé de l'article 13, dont on vous a déjà largement parlé dans nos précédentes émissions. Alors plus concrètement, ils ont voté la version de l'article 13 du rapporteur Axel Voss, qui, si vous en souvenez bien, donc le rapporteur à la commission jury, donc affaires légales, et le texte qui a été voté là ce mercredi 12 correspond à celle qui avait été votée en juin et qui avait été rejetée, enfin le mandat sur lequel avait été rejeté texte qui avait été rejeté en juillet. Et ce rejet de juillet nous a conduit à ce vote du 12 septembre. Alors cette version du texte qui a été votée, malheureusement, était une des pires, hein, qui a été soumise aux parlementaires, parce qu'elle contient donc les graves menaces que nous avions identifiées, notamment donc, d'un filtrage généralisé et ce qui en suit d'un risque de censure. Alors on va noter quand même une bonne nouvelle, hein, alors un lot de consolation certes, mais qui a son importance. Les plateformes de développement de logiciels libres ont bel et bien été exclues du champ d'application de l'article, sans distinction basée sur le but lucratif de la plateforme. Donc la version que portera le Parlement européen exclut bien donc les plateformes logicielles. Parce que voilà, dans la suite, là maintenant, ce qui se passe, donc là, le Parlement européen a adopté ce texte. Il va partant, et là, ça commence aujourd'hui, ce qu'on appelle le trilogue, qu'on avait déjà évoqué aussi. C'est-à-dire que le Parlement européen va porter ce texte-là, sa version. Il va négocier avec les représentants du Conseil de l'Union européenne, donc les représentants des États membres, et avec la Commission européenne, ils vont négocier entre eux un texte final qui sera normalement début 2019, soumis au vote final des parlementaires européens. Alors dans le communiqué de presse, on avait un peu détaillé, malheureusement on voit bien que côté français, et sans grande surprise, il y a eu un large soutien aux dispositions rétrogrades et liberticides de l'article 13. Il faut voir que seuls 10 parlementaires français ont voté contre l'article 13. Alors, ils étaient issus des groupes EFDD, donc plutôt les eurosceptiques, GU, qui sont le groupe unitaire de la gauche, plutôt front de gauche, donc, et les Verts. Et sur ces 10, seuls 4, eux, ont rejeté complètement la directive. Et c'est ce que voilà, nous, on défendait parce que c'était la seule manière de vraiment reprendre les débats et les réflexions à zéro sur des bases plus saines. Et ce sera tout l'enjeu de réussir à, enfin, à faire sauter donc, la directive lors du prochain vote au Parlement, afin voilà, de pouvoir mener des débats après sereins sur la question. Et on peut malheureusement constater que bah, du coup, les deux principaux groupes français, hein, que sont donc le PP qui correspond près aux Les Républicains et SED qui va correspondre près au PS, eux ont voté intégralement en faveur de ce texte. Alors c'est un coup dur, hein, mais voilà, comme je vous disais, c'est pas fini. La directive en elle-même n'a pas été votée. C'est juste une version, la version que le Parlement, sur laquelle le Parlement européen va négocier avec les autres institutions. Alors il y a le trilogue qui a commencé. Alors c'est pas une étape, c'est une étape qui se passe beaucoup derrière des portes closes. Il y a assez peu d'espoir.
Elle a même commencé aujourd'hui, je crois.
Oui, elle a commencé aujourd'hui, voilà. Tout à fait.
Donc nous sommes pile poil dans l'actualité, à la pointe.
S'ils nous écoutent, on espère que.
D'ailleurs, j'ai une petite question. Tu dis que le Parlement européen va négocier donc avec le Conseil européen et puis la Commission, mais en fait c'est pas tout le Parlement qui va négocier. Ils ont peut-être mandaté quelqu'un pour négocier en particulier.
Mais a priori, ce serait le rapporteur Axel Voss.
Ah oui, donc le fameux en faveur de tout ce qui est effectivement voilà. Filtrage automatisé, etc.
Voilà, d'accord. Et dont la compétence tout le monde, qui a certains éléments à l'intérieur même du texte dont il n'avait pas connaissance, ou alors il avait mal mesuré les effets pervers du dit texte.
Oui, c'était sur les vidéos prises ou les photos prises dans les matchs de sport par des fans, c'est ça?
Pour lui, le texte, il l'avait lu rapidement, hein. Il pensait que c'était une manière de préserver peut-être les droits de diffusion des télés, hein, et donc d'empêcher peut-être les personnes de faire des flux non autorisés. Et ben, du coup, n'importe qui prendrait des photos d'un match où il se situe, qui partagerait ça sur le réseau, en fait, se situerait dans l'illégalité. Et donc, le texte voté, sans qu'il l'a dit lui-même, il ne l'avait pas vu, il n'avait pas fait gaffe, eh bien, on serait dans l'égalité en diffusant des photos sur le réseau qu'on prendrait pendant un match de foot ou autre sport. Donc, on voit un niveau de compétence et surtout de sérieux et donné à ce texte qui est assez dramatique, notamment quand on voit la mobilisation qu'il y a derrière. Alors alors c'est vrai que c'est une étape là, qui est un peu compliquée, il y a assez peu d'actions directes à mener, parce que c'est vraiment derrière des portes closes, mais on va quand même agir, ne serait-ce que pour assurer l'exclusion vraiment ferme et définitive des plateformes de développement de logiciels libres. Parce que voilà, alors, le Parlement européen a bien validé qu'il n'y aurait pas de critères basés sur le but lucratif. Le Conseil de l'Union européenne, lui, avait un texte, la version de ce texte-là, et identiquement pour la version de la Commission européenne, contenait un critère, il n'excluait que les plateformes de développement de logiciels libres à but non lucratif. Donc c'est une distinction qui est absurde. Le gouvernement français, dans une réponse à une question écrite, semble dire « vous inquiétez pas, il n'y aura pas de souci ». Donc on va essayer de s'assurer que le gouvernement français, enfin du moins les représentants de la France, traduisent ces belles paroles en actes.
Et donc en fait, propose au Conseil de faire converger sa position sur cette exclusion vers la position du Parlement européen et donc de supprimer ce but non lucratif. De manière exactement. À ce que ça exclue toutes les plateformes, qu'elles soient à but lucratif ou non lucratif. Mais c'est juste un petit patch, on pourrait dire, qui ne remet pas en cause le fait que cette directive est une absurdité complète et qu'il faudra de toute façon essayer de la faire rejeter lors du vote final au Parlement européen.
Tout à fait. Là, c'est juste une précaution. Un cliquet, si on arrive à au moins enclencher ça pour minimiser les effets de bord, mais bien sûr, il est hors de question de se satisfaire de cette exclusion. Pour ça, je parlais d'un lot de consolation qui est indispensable si jamais la directive finit par passer. Donc, il faut agir pour ça, pour préserver au moins cela, mais il est hors de question de se satisfaire. On est bien d'accord. Et donc, voilà, donc le texte, voilà, tu le dis, donc il y a un texte qui va sortir, qui va être le fruit de ces négociations interinstitutionnelles, ce trilogue. Selon toute vraisemblance, et parce qu'il y a des votes qui devraient arriver, il y a des votes, le vote des parlementaires européens qui se profile. Donc, selon toute vraisemblance, début 2019, les parlementaires vont voter pour adopter ou rejeter le texte qui va sortir de ces négociations. Alors, bien sûr, inutile de dire que ce sera facile, hein, les cotes ne sont pas avec nous, mais ça reste tout à fait possible de renverser la table. Et le fait que les élections se profilent, une période va faire que c'est une période où les élus vont se montrer particulièrement attentifs à l'opinion publique. C'est assez classique, donc. Et c'est à nous de profiter de la caisse de résonance que ça va nous offrir pour vraiment faire entendre nos voix, pour réaffirmer que nous refusons que soit inscrit dans la loi, enfin, dans la directive, dans la loi en général, le principe de filtrage automatisé des contenus, de ce que nous partageons, qu'ils ont beau avoir empilé des exceptions, qu'ils ont beau avoir mis des critères qui, soi-disant, limiteraient l'impact de la directive aux seuls GAFA, mais on sait très bien, enfin, ça ne suffit pas. On sait très bien qu'une fois qu'un principe est inscrit dans la loi, c'est qu'une question de temps avant qu'il soit généralisé. Moi, j'imagine très bien les industries culturelles revenir nous voir 10 ans plus tard en disant « Bon, alors très bien, l'article 13 fonctionne très bien sur YouTube, mais regardez, les vilains contrevenants, ceux qui violent le droit d'auteur, utilisent les plus petites plateformes, donc il faut régler ce trou-là, il faut étendre le dispositif. » C'est quelque chose d'assez classique. Moi, ça m'évoque l'allégorie de la grenouille qui se laisse doucement ébouillanter. Donc, il est hors de question que ce principe...
Surtout qu'ils n'attendront pas 10 ans.
Et ils n'attendront sans doute pas 10 ans. Donc, voilà, il est toujours temps de faire du bruit. C'était un coup dur, mais le combat continue. Et il ne faut surtout pas minimiser nos chances de réussir à renverser la table. Et de toute façon, voilà, nous, on restera sur le créneau pour défendre la liberté informatique, pour défendre nos libertés en ligne. Ouais.
Donc, ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est que c'est un vote négatif parce que la directive est toujours là. Elle a été donc adoptée en sorte de première lecture, mais qu'il sera encore possible d'agir quand ça va revenir pour le vote final, parce qu'évidemment, le texte va évoluer. Donc, il faut sans doute retirer quelque chose, peut-être rajouter des petits trucs et essayer de converger sur des points. Et ça sera quelques mois des échéances européennes. Il faut rappeler qu'il y a des élections européennes en 2019. Donc voilà, la mobilisation n'est pas terminée. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ce sujet lors d'une prochaine émission. Je crois que sur le site saveyourinternet.eu, il y a un point de la situation. Est-ce que le texte final, d'ailleurs, actuellement voté, enfin le texte final, le texte voté par le Parlement européen est disponible facilement?
Alors, on vous a mis... Alors facilement, alors il faut... c'est vrai que ça c'est une difficulté quand on suit les affaires institutionnelles au niveau de l'Europe. Alors ils ont tendance à mettre leur texte un peu partout, alors je ne sais pas comment ça fonctionne, mais on vous a mis le lien sera disponible sur april.org. Alors manière quand on lit ce texte, en fait ça vous propose d'un côté la version originale, c'est celle de la Commission, et la version amendée, puisqu'en réalité c'est ça, du Parlement européen, et ça permet déjà de voir une évolution. Alors la manière de le lire aussi, donc vous avez une directive européenne commence d'abord par une liste de considérants, donc ça montre un peu l'intention du législateur en faisant sa loi. Ça a son importance notamment pour les interprétations des juges si jamais quand elles pourront avoir lieu, et suivi ensuite des articles, donc le dur du sujet. L'article 13 donc étant celui qui nous pose, même si le mot n'est pas écrit dedans, qui pose très clairement le principe d'un filtrage en rendant responsable en fait des acteurs, on peut les appeler hébergeurs, plateformes, services, appelez-les comme on veut, mais qui veulent les rendre responsables de contenus dont ils n'ont pas vocation à avoir connaissance, donc ce qui pousse à un filtrage, qui pousse à une surveillance de ce qu'on met en ligne. Et l'article 2, lui, contient donc l'exception pour les plateformes de développement de logiciels libres. Donc voilà, le lien sera sur le site. Et donc je pense que voilà, c'est une bonne manière aussi de s'approprier un peu le sujet, même si ce n'est pas des textes qui sont évidents à lire, elles sont assez parlantes. Et voilà, donc il sera temps début 2019 de se rappeler, de prendre contact avec nos parlementaires, de leur dire écoutez ce qu'on a à dire, de montrer qu'il y a une mobilisation, de faire du bruit, de leur faire peut-être peur par rapport aux élections à venir sur le fait qu'il y a une mobilisation citoyenne réelle et engagée sur ces questions.
Écoute, merci Étienne. Donc de toute façon, on reparlera de ce sujet bientôt. Donc l'émission ne se termine pas tout de suite, il reste encore un petit peu de temps. Je vais en profiter, comme on est un tout petit poil en avance, je vais en profiter pour signaler une action qu'a menée le groupe de travail Libre Association de l'April récemment. Donc ce groupe de travail Libre Association, qui est un groupe que n'importe qui peut rejoindre, il y a une liste de discussion, donc vise à essayer de sensibiliser les associations autour du logiciel libre et puis de les accompagner de bonnes pratiques et de bons échanges. Récemment, ce groupe s'est rendu compte que pour déposer des demandes de subvention sur le site officiel de l'administration française, vous avez les formulaires dits CERFA, les associations étaient invitées à télécharger et à remplir un canevas au format PDF, mais que ce document n'était pas du tout utilisable sur un système libre. Il nécessitait un outil privateur. Et malgré des demandes du mouvement associatif de Bourgogne-Franche-Comté, qui avait signalé ce problème en juin 2018, aucune réponse officielle n'avait été apportée. Eh ben, le groupe de travail Libre Association a décidé d'agir et donc de mettre à disposition une version accessible pour les structures et personnes ayant fait le choix d'utiliser des logiciels libres. Donc ils ont refait ce formulaire dans un format ODT, donc Open Document. On l'a mis en ligne sur le site donc, du groupe de travail Libre Association, c'est libreassociation.info. Et ce qui est intéressant, c'est que assez rapidement, quelques jours plus tard je crois, ce document a été rajouté sur le site officiel du service public. Donc maintenant, quand vous allez sur le site officiel du service public dans lequel vous pouvez télécharger ce fameux PDF non accessible, en dessous, il y a la version Open Document. Donc je voulais féliciter les membres du groupe de travail Libre Association et la réactivité aussi de l'administration d'avoir mis en ligne ce texte, même s'il aurait été évidemment mieux de le mettre directement à un formulaire accessible. En tout cas, voilà, c'est un exemple de petite action, une action très importante qui prend du temps et qui a un effet positif immédiatement. Je voulais juste aussi rajouter, le temps passe vite, je vois qu'Olivier en régie va bientôt lâcher la pause musicale, donc on va passer aux actualités à venir pour l'April, notamment, et le monde du logiciel libre. Alors, pour les gens qui habitent en région parisienne, jeudi soir, donc, il y a la soirée de contribution au libre, donc jeudi 4 octobre, à la FPH, donc dans le 11e arrondissement de Paris. Donc, c'est si vous voulez contribuer au logiciel libre, en fonction de vos compétences, vous êtes les bienvenus. Samedi, il y a le premier samedi à la Cité des sciences et de l'industrie, à partir de 14h. Là, c'est principalement si vous voulez suivre des conférences, vous aider à vous faire installer un système libre. Ce week-end, alors là c'est à Marseille, un événement important pour l'April, c'est un April Camp que nous organisons donc les 6 et 7 octobre à Marseille. Donc un April Camp, en fait, simplement on a pris un lieu, donc c'est en l'occurrence un bar associatif qui s'appelle le Foyer du Peuple, et pendant 2 jours on va être présent, donc moi je serai présent, et on sera disponible pour échanger, pour travailler sur des projets de l'April, pour lancer des nouveaux projets. Donc toutes les personnes sont bienvenues, toutes les compétences sont bienvenues. Si vous voulez simplement discuter, vous pouvez passer. Il y aura un apéro le samedi soir, donc le samedi 6, à partir de 19h. Donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Comme j'en suis en parlé d'apéro, le prochain apéro de l'April à Paris, c'est le vendredi 19 octobre, donc dans le 14e arrondissement. Il y a un apéro April à Montpellier le jeudi 18 octobre. Alors tous ces événements que je vous annonce, évidemment, vous les retrouvez sur l'agenda du libre, donc agendadulibre.org, et bien d'autres événements. Il y en a d'autres événements qui sont à venir à Paris et ailleurs. Alors, si Olive avait été en régie, j'aurais parlé de l'événement des 8 et 9 décembre à la Cité des sciences et de l'industrie, parce qu'il paraît qu'il faut citer l'Ubuntu Party à chaque émission. J'ai entendu parler de ça lors de pause commune. Donc, enfin, c'est fait. Donc, voilà. Donc, des occasions de nous voir soit à Paris, soit à Marseille, soit à Montpellier. Venez effectivement avec plaisir. Et puis je vais finir quand même par rappeler que une radio, ça a besoin d'aide financière pour payer notamment le matériel. Donc n'hésitez pas à faire un petit don sur le site causecommune.fm. La prochaine émission sera diffusée mardi 6 novembre 2018 de 15h30 à 17h. Donc notre émission se termine. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio Cause Commune. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve le 6 novembre et d'ici là, portez-vous bien. Et nous nous quittons donc en musique avec Weston de Realaz.